Bill était alcoolique. Il était né et avait grandi en Alaska. Il avait grandi dans un environnement d'alcoolique et il considérait ce mode de vie comme normal. Après avoir atteint la vingtaine, il se rendit compte qu'il serait de son intérêt de commencer à se prendre en main. Il retourna donc à l'université et obtint un diplôme en tant que conseiller auprès de toxicomanes. Il se maria et eut un enfant. Mais en dépit de toute sa connaissance en la matière, il ne fut pas capable de surmonter son problème d'alcoolisme. Sa femme le quitta pour aller s'établir dans l'État de Washington. Il décida alors de la rejoindre, même s'ils étaient à présent séparés, ce qui lui permettrait ainsi de se rapprocher de son fils. C'est là qu'il fut exposé à la vérité. Il entendit parler du plan de Dieu et sollicita alors la visite d'un ministre. C'est moi qui fus assigné à cette tâche. Lorsqu'il vint à l'église, c'est encore moi qui allais m'occuper de lui. À cette même époque, d'autres membres parmi nous était également affligé de certains problèmes de dépendance. Le pasteur de notre congrégation me demanda alors si je serais disposé à m'occuper de ceux qui étaient en phase de réhabilitation. C'est que, voyez-vous, je suis moi-même l'enfant d'un alcoolique, et cela me motivait à vouloir travailler avec eux et à les aider. Et c'est ainsi que nous avons commencé à nous réunir en petits groupes chaque jeudi soir. Il y avait là quelques alcooliques, une prostituée, une personne qui souffrait de boulimie et un toxicomane en phase de rétablissement. En tout, 6 ou 7 personnes. Durant tout le temps que je passais avec eux, ils m'en apprirent bien plus qu'il ne me fut possible de leur enseigner pour ma part. J'en vins non seulement à nouer de solides liens d'amitié avec eux, en particulier avec Bill, mais simultanément, je parvins à comprendre tant de choses à propos de ces processus qui permettent de s'affranchir de divers problèmes de dépendance. Le succès rencontré dans notre petit groupe ne tarda pas à être connu par d'autres, qui voulurent alors se joindre à nous. Je demandai donc aux membres de notre petit groupe s'ils seraient prêts à accepter de nouvelles personnes. Ils se montrèrent prêts à en accepter un jeudi sur deux. Et c'est ainsi qu'un jeudi sur deux, notre groupe grossit au point de dépasser la centaine, tous étant désireux de comprendre comment sortir de leurs divers problèmes de dépendance. Nous nous sommes appelés le groupe des adultes enfantés par ce monde, parce que plusieurs des politiques, des pratiques et des principes utilisés dans ce mouvement de rétablissement permettaient tout autant de surmonter d'autres problèmes de la vie quotidienne. Le concept de dépendance a besoin d'être défini. Une dépendance est définie comme étant un état d'asservissement à une habitude ou à une pratique, quelque chose qui développe en nous une accoutumance physiologique ou psychologique. On est alors incapable de se contrôler et on se laissera gouverner par une pratique dont les effets nous seront généralement néfastes. C'est une tendance ou une envie, une dépendance, un asservissement, un échappatoire auquel on aura souvent recours au début de l'adolescence, pour éviter de devoir faire face à la réalité, pour fuir les problèmes que rencontrent des personnes mûres et adultes. Il arrivera souvent, dans les premières années de l'adolescence, que des individus se tourneront vers certaines substances ou adopteront certains comportements dans le but de fuir la réalité, d'échapper à la nécessité de mûrir et d'apprendre à gérer des situations communes aux adultes. Cela pourra se traduire par un dérapage vers l'alcool ou les drogues, Mais il se pourrait aussi qu'on se tourne vers les jeux électroniques ou la criminalité. Pour d'autres, ils se réfugieront dans leur travail ou la boulimie ou l'anorexie. D'autres encore deviendront des joueurs compulsifs ou des victimes de la pornographie, voire même des adeptes de sports extrêmes. La dépendance peut revêtir diverses formes, qui toutes vont créer une accoutumance, laquelle finira par marquer la personnalité de la personne. Chez plusieurs, la vie continuera, malgré leur dépendance, mais il viendra un moment où celle-ci commencera à briser leur mariage ou à ruiner leur situation financière, voire leur santé. Quand ceci se produira, on se mettra à penser: il est temps que je mette un terme à cette pratique. Mais le fait de vouloir interrompre un tel cycle infernal aura des conséquences. La dépendance va s'imposer à eux de nouveau, ce qui aura souvent de graves conséquences. Durant tout le temps que j'ai travaillé avec ces personnes qui se remettaient d'une dépendance, je me mis à éprouver beaucoup de compassion et de respect à leur égard. Je voyais que c'était des individus au cœur tendre qui voulaient faire le bien, mais ils ne pouvaient pas gérer les conditions difficiles ou les traumatismes auxquels ils étaient soumis. Le titre de mon sermon est Sept clés permettant de récupérer spirituellement. Je vais vous montrer que tous les individus avec lesquels nous aurons à travailler au début du millénium et aussi durant la période du jugement du grand trône blanc seront des individus qui n'auront pas appris à proprement gérer leur vie, et il faudra donc leur enseigner une meilleure façon de vivre. Il leur faudra alors se remettre de ce qui aura causé leur dérapage et sortir des problèmes qui en auront résulté. Mais avant tout cela, penchons-nous tout d'abord sur certains passages des Écritures. Commençons avec le deuxième chapitre de l'Épître aux Éphésiens, où nous lisons, Éphésiens chapitre 2, verset 1, Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Satan s'efforcera par tous les moyens à sa disposition de nous empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Jean 8, verset 44 dit de lui qu'il a été meurtrier dès le commencement. Par ailleurs, quels sont ceux qu'il cherche à faire périr, sinon ses enfants en Christ qui sont destinés à naître dans la famille de Dieu? Mais poursuivons dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Il est dit que nous étions tous ainsi. Il ne s'agit donc pas seulement de quelques individus qu'on pourrait qualifier de toxicomanes. Oui, tous nous cherchions à satisfaire nos désirs charnels. Frères et sœurs, nous tous qui avons été appelés à l'Église et qui devons à présent apprendre à vivre selon la voie divine, il nous faudra passer par un processus de récupération spirituelle. Rendons-nous maintenant à 1 Pierre chapitre 1 et le verset 13. 1 Pierre chapitre 1, verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, c'est-à-dire contrôlons nos pensées. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Frères et sœurs, nous tous, dans l'Église, devons passer par ce processus. Et chaque individu avec qui nous serons amenés à travailler à l'avenir devra pareillement passer par un tel processus de récupération spirituelle. Allons à présent à 1 Thessaloniciens chapitre 5, où nous débuterons au verset 6. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. C'est là une exhortation qui revient fréquemment dans le Nouveau Testament. Ne nous comportons pas comme un poisson mort qui se laisserait emporter par le courant. Ne nous laissons pas influencer par les voies de ce monde. Osons être différents. Démarquons-nous. En nous appelant, Dieu s'attend à ce que nous changions par rapport à notre façon de vivre antérieure. Soyons sobres. Abandonnons nos habitudes d'antan et apprenons à gérer notre vie à la manière divine, selon l'exemple de Christ. Verset 7. 1 Thessaloniciens 5, verset 7. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. C'est là une contrainte spirituelle qu'il nous faudra nous imposer. Voyons à présent 1 Pierre chapitre 4, en commençant au verset 7. 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Il nous faut donc faire preuve de sobriété et considérer tout le chemin parcouru depuis que Dieu nous a appelés à sortir de ce monde. Que cela nous permette de comprendre ce que d'autres auront à affronter lorsqu'ils seront à leur tour appelés à sortir du monde. Un trait caractéristique de ceux qui sont sortis d'une dépendance, c'est qu'ils peuvent avoir de la compassion pour ceux qui passent par la même situation. Ils comprennent, car ils ont vécu la même situation. Allons maintenant à 1 Pierre chapitre 5, en débutant au verset 8. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Frères et sœurs, nous qui sommes des prémices, nous devons développer l'attitude d'un grand frère ou d'une grande sœur à l'égard de ces enfants en Christ qui nous arrivent. Ayons à cœur de les aider et de les encadrer de notre mieux. Rendons-nous maintenant à 2 Pierre, le chapitre 2 et le verset 20. 2 Pierre, chapitre 2, verset 20. En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau, ils sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. C'est effectivement bien triste, mais malheureusement très fréquent, qu'une personne qui lutte vaillamment contre une certaine dépendance se retrouve en définitive à lui succomber de nouveau. Comme je l'ai déjà dit, C'est très triste, mais ce sont des choses qui arrivent communément. Et elles peuvent nous arriver aussi, vous savez. Voyons à présent ce que dit Hébreux chapitre 2, en commençant au verset 1. Hébreux 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. La connaissance à elle seule ne suffit pas. Et le fait de comprendre la vérité n'est pas non plus une garantie que nous resterons dans le droit chemin. Nous pourrions quand même nous égarer. Verset 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Voyez-vous, tout cela n'est pas une garantie que nous ne retournerons pas dans le monde. Comme je vais vous le montrer, les individus avec lesquels nous travaillerons durant le millénium, de même que ceux que nous aiderons durant le jugement du grand trône blanc, seront des gens qui seront issus de ce monde. Ils seront, sous bien des rapports, dans une situation semblable à la nôtre, lorsque nous avions délaissé les voies de ce monde. Il nous faudra alors leur témoigner toute notre sollicitude, les aider et les servir. Tournons-nous maintenant vers Hébreux, le chapitre 6 et le verset 4. Je me tourne vers ces passages, car il y en a qui considèrent parfois ces choses avec désinvolture. J'en ai vu dans ces groupes de thérapie qui s'imaginaient qu'à présent qu'ils étaient au courant de la stratégie à adopter, ils ne risquaient plus rien. Ils se croyaient immunisés contre une rechute. Ils croyaient pouvoir maîtriser leurs problèmes à présent. Ainsi, certains avaient même recommencé à boire, avec modération, sans conséquences fâcheuses. Du moins, tant que leur vie ne subissait pas trop de pression. C'est lorsque de sérieux problèmes se remirent à apparaître à l'horizon qu'ils recommencèrent à perdre le contrôle de la situation et à rechuter. D'où cet avertissement qui nous vient dans Hébreux chapitre 6, Hébreux chapitre 6, verset 4, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, il est ici question du Saint-Esprit que Dieu nous donne pour que nous en fassions bon usage, pour que nous nous en servions pour croître et pour développer l'Esprit de Christ. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Traiter une guérison spirituelle est un sujet qui doit être pris très au sérieux. Aider les gens à se remettre d'une dépendance physique ou mentale est quelque chose de très délicat. Nous allons en parler davantage, mais d'ores et déjà, comprenez bien qu'il y a des signes auxquels on peut reconnaître qu'une personne est sur le point de faire une rechute. Mais avant de nous concentrer sur certains des symptômes qui annoncent une rechute, voyons encore ce verset. C'est dans 2 Corinthiens 13, au verset 5. 2 Corinthiens 13, verset 5. Où nous lisons « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Frères et sœurs, chacun d'entre nous doit se livrer à un examen personnel, honnêtement et en toute objectivité. Notez certains de ces symptômes qui peuvent être mis en évidence chez des individus qui sortent d'une obsession ou d'un asservissement à une habitude et qui sont sur le point de lui succomber à nouveau. Ceux qui participent à une thérapie de guérison peuvent généralement détecter quelqu'un de dépendant des lieux à la ronde. Ils remarquent sa conduite et ses paroles, et cela leur rappelle leur propre comportement il n'y a pas si longtemps. Ils vont alors se dire « Oh, tu ne peux pas me tromper, j'ai passé par là moi aussi. Quoi que tu dises, je sais que tu cherches à refouler la réalité. Tu veux nier l'évidence. » Lorsqu'on travaille avec des gens qui sortent d'une dépendance, il est encourageant de constater qu'ils ont cessé de nier l'évidence. Ils en sont venus à comprendre que ceux qui se livrent à un tel jeu sont en fait en bonne voie de faire une rechute. Examinons donc certaines de ces caractéristiques que les gens vont présenter. La raison pour laquelle il est si important de procéder à un auto-examen, c'est qu'après un tel exercice, il nous sera plus facile de détecter les problèmes chez notre prochain avant que ceux-ci ne dépassent les bornes. Espérons que nous pourrons alors intervenir à temps. Rendons-nous maintenant à Hébreux chapitre 3, au verset 8. Hébreux 3, verset 8. N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Puis au verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. C'est que nous ne devons pas agir en solitaire. Il nous faut nous entraider et nous encourager mutuellement. Puis au verset 18. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Il va arriver un moment où une personne qui fait une rechute et qui nie la réalité va voir son cœur s'endurcir. C'est un problème très sérieux. Le problème sera d'ailleurs aggravé lorsque ses parents, le système scolaire, voire même la police, seront portés à la protéger, de sorte qu'elle ne se sentira pas coupable de ses mauvaises actions. Le fait de s'en être sorti en toute impunité lui fera croire que son comportement n'était pas si répréhensible après tout. Plus longtemps cette situation se prolongera, et plus grand sera le risque que cette personne endurcisse son cœur. Lorsqu'une personne franchit ainsi le cap de la trentaine, voire de la quarantaine, elle n'en tombera que de plus haut, avec des conséquences bien plus dramatiques que si elle avait appris ses leçons lorsqu'elle était encore dans l'adolescence. La vie nous enseignera tous des leçons, mais à mesure que nous avancerons en âge et en maturité, nous aurons à porter plus de responsabilités et nous serons soumis à plus d'obligations. Si, dans ces conditions, nous restons esclaves de nos dépendances, les conséquences qui en résulteront seront d'autant plus tragiques. Ainsi donc, procédons à notre propre examen pour savoir si nous sommes en danger de faire une rechute. Le premier élément qui s'observera chez une personne qui retombe dans un état de dépendance, c'est un sentiment de supériorité. Elle va s'apitoyer sur son sort et prétendre qu'elle n'est, après tout, qu'une victime de circonstances, qu'au fond, elle est vraiment quelqu'un de bien. Elle aura une trop haute opinion d'elle-même. Cela me fait penser à l'attitude de ce pharisien dont il est question dans Luc chapitre 18. On le voit qu'il se rend au temple pour prier. Il est tout imbu de lui-même. On le voit qui prie en lui-même « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Pas vraiment un exemple d'humilité, n'est-ce pas? Tout le contraire du publicain qui n'ose même pas lever les yeux au ciel. Voici donc une des premières choses à noter. La personne se considère-t-elle au-dessus de tout reproche? Un deuxième point qui caractérisera une personne sujette à faire une rechute, c'est qu'elle va juger et critiquer son entourage. Il lui sera aisé de reconnaître chez les autres les problèmes qu'elle a en fait elle-même. Cependant, comme M. Armstrong avait coutume de dire, lorsqu'on pointe un doigt accusateur vers les autres, n'oublions pas qu'il y a simultanément trois doigts qui pointent vers nous. Vous noterez qu'une telle personne sera portée à juger son prochain et elle fera souvent preuve d'un bon discernement dans son évaluation. Cependant, que lisons-nous dans Matthieu 7, au verset 3, à propos d'une telle attitude? Voyons-le, Matthieu 7, verset 3. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» C'est un cas classique. On va l'entendre dire « Écoutez, je suis simplement un être comme les autres. Certes, j'ai commis cette bévue, mais suis-je vraiment aussi mauvais que ceux-ci ?» Ils vont donc considérer qu'ils sont tout à fait normaux, mais simultanément, ils ne se priveront pas de critiquer durement les autres, en particulier ceux qui sont en autorité. Des ministres, par exemple, des parents, des représentants du gouvernement, des policiers ou des militaires. Voyons maintenant ce qui est dit dans 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 9. 2 Pierre chapitre 2, verset 9. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Avouons que c'est là une pensée réconfortante. Surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Il est ici question de ceux qui sont présomptueux et qui veulent n'en faire qu'à leur tête. Ils n'ont pas peur de dénigrer ceux qui sont en autorité. Voilà donc une autre caractéristique de quelqu'un qui est sujet à une dépendance ou qui fait une rechute. Un troisième point qui pourra caractériser une telle personne, c'est qu'elle se montrera impulsive. J'ai dans mon bureau un petit écriteau qui me plaît beaucoup et qui dit « Je ne pouvais me résoudre à attendre le succès, alors j'ai procédé sans lui. » C'est là un trait commun aux jeunes qui n'ont pas encore appris à contrôler leur impulsivité. Ils n'ont tout simplement pas encore atteint la maturité. Cela est aussi étroitement lié à une incapacité de prendre des décisions. Tournons-nous vers 1 Roi, chapitre 18, verset 21. où le prophète Élie s'adresse au peuple, disant Un roi, chapitre 18, verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. En d'autres mots, quand on se cantonne dans l'inaction et qu'on se laisse envahir par la peur de prendre une décision, c'est parce qu'on a une peur bleue des conséquences qui pourraient en résulter. Certes, quand on doit prendre une décision, il est indiqué de considérer la pire conséquence qui pourrait en résulter. Mais, ce faisant, considérons aussi les autres options qui s'offrent à nous. Cela viendra avec l'expérience. Ceux qui n'en ont pas se sentiront alors pris au piège et acculés au pied du mur. Ils vont alors rester figés à la manière d'un chevreuil lorsqu'il est confronté au phare d'une auto qui se dirige vers lui. On ne s'y rendra pas, mais Jacques, chapitre 1, verset 8, parle de cet homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Quel mode de vie nous faut-il donc adopter? Et comment allons-nous nous débarrasser de ces anciennes habitudes qui étaient mauvaises? En bref, si nous voulons sortir de ce monde et de ces mauvaises voies, si nous voulons nous extirper d'une situation de dépendance, il nous faudra apprendre à remplacer nos mauvaises habitudes par des bonnes. Veuillez à présent vous reporter à 1 Corinthiens chapitre 16, verset 15, où l'apôtre Paul fait l'éloge de la famille de Stéphanas, disant 1 Corinthiens 16, verset 15, « Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. » En d'autres mots, les membres de cette famille s'étaient efforcés de remplacer leur ancienne façon de vivre par une nouvelle, qui consistait maintenant à servir le peuple de Dieu de tout leur cœur. Pour eux, servir l'Église et ses membres était devenu leur passion, leur raison d'être. Ce faisant, ils avaient remplacé le négatif de leur vie antérieure par du positif. Philippiens 2, verset 3 le dit d'une façon très claire. Voyons-le. Philippiens, chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Je vais y revenir sous peu, mais en attendant, poursuivons au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Cela implique de notre part un changement profond de toute notre façon de penser. Cela ne peut s'effectuer qu'avec l'aide de Dieu. Cela implique qu'on change notre perspective des choses, notre attitude. Les gens avec qui nous serons amenés à travailler devront totalement changer leur façon de penser et d'agir. Et nous aurons besoin d'aide pour savoir comment opérer ces vastes changements en eux. Reportons-nous à présent à Hébreux chapitre 10, verset 25. En tant que fermier ayant jadis élevé des brebis, je sais qu'une brebis égarée veut qu'on la retrouve. Une brebis perdue ne veut pas rester seule. Quand vous apercevez une brebis solitaire, vous savez qu'elle n'est pas bien. Nous sommes comme des brebis, spirituellement parlant. Et c'est pourquoi nous lisons dans Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Dieu ne nous a pas appelés en solitaire. Il nous a appelés pour que nous fassions partie d'un groupe. En tant que pasteur, quand nos regards parcourent l'audience, et quand bien même celle-ci se composerait d'une centaine de personnes, nous avons vite repéré ceux qui sont absents. Et lorsque leur absence se prolonge de semaine en semaine, nous savons qu'il y a un problème, même si les principaux intéressés n'en sont peut-être pas conscients eux-mêmes. Ceux qui s'éloignent ainsi du groupe, de ce groupe à qui Dieu enseigne une nouvelle façon de vivre, présentent manifestement un problème. Voyons à ce propos un passage des Écritures que beaucoup ont du mal à comprendre. Il se trouve dans Matthieu 11, au verset 12. Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Dr. Meredith a souvent commenté ce verset en disant que pour être dans le royaume, il nous faut aller de l'avant. Il faut, pour ainsi dire, nous en emparer. On n'y entrera pas si on est passif, si on a une attitude de laodicéen. Il faut se montrer déterminé, agressif même. Cela requiert de l'énergie et de la persévérance. Pensez à Jacob, comment il a lutté avec persévérance toute la nuit, même s'il était affligé de grandes douleurs. Il n'allait pas abandonner, il allait endurer jusqu'au bout. Dans Apocalypse chapitre 2 et 3, on nous exhorte maintes fois à vaincre et à surmonter, à ne pas être tiède et lâche. De fait, ce sont là les mêmes traits de caractère qui nous permettront de surmonter une dépendance et de sortir des voies de ce monde. Cela requiert de notre part un engagement ferme. Il ne suffit pas d'accumuler des connaissances théoriques. Ce qu'il faut, c'est de s'en servir pour devenir une nouvelle personne, une meilleure personne. Je vais à présent aborder 7 points qui peuvent aider à sortir d'une dépendance. Nous tous qui sommes dans l'Église, il nous a fallu sortir du monde et nous soumettre à un processus dont le but est de changer notre façon de vivre. Nous devons changer notre façon de penser. Nous devons développer de nouvelles stratégies pour faire face à nos problèmes et à nos épreuves. Nous devons nous efforcer de développer en nous l'Esprit de Christ. Veuillez vous reporter à Jérémie chapitre 31 et le verset 8. Jérémie chapitre 31, verset 8. Voici, je les ramène du pays du septentrion. Je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Frères et sœurs, le temps où ceci se produira est proche. Voyez le verset 10. Nations, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Dieu va ramener un peuple. Et ce peuple sera formé d'aveugles, de boiteux et de gens au moral brisé. Notez qu'il ne s'agira pas seulement d'Israélites, mais aussi d'autres peuples. En effet, Jérémie 16, verset 19, ne dit-il pas « Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse. Les nations viendront à toi des extrémités de la terre, et elles diront « Nos pères n'ont hérité que le mensonge, de vaines idoles qui ne servent à rien. » Frères et sœurs, il va nous arriver des gens de tous les horizons, Ils seront issus de toutes sortes de cultures et de milieux. Ils auront été opprimés et malmenés. Ésaïe 49, verset 20, parle de ces enfants qu'ils auront après avoir perdu les autres. Vous savez, lorsqu'on passe par un tel traumatisme, lorsqu'on perd des enfants à cause d'une famine, d'une maladie ou d'une guerre, ou à la suite d'une captivité, où ils meurent en tant qu'esclaves, cela vous brise le cœur. En pareille circonstance, lorsque vous aurez atteint le fond du gouffre, vous serez prêt à faire face à la réalité. Ces gens reviendront de loin, et ils devront affronter une dure réalité au terme de ces 6000 ans durant lesquels Satan aura gouverné la terre. Voilà le genre de personnes dont nous devrons nous occuper. Ils seront brisés émotionnellement et physiquement. Il y aura parmi eux des boiteux, des aveugles et des gens qui auront subi des traumatismes de toutes sortes. Mais c'est à ce stade qu'ils seront enfin prêts à se laisser enseigner sans faire d'opposition. Ils seront alors dans une situation similaire à celle d'une personne prête à sortir d'une condition de dépendance après qu'elle aura perdu sa femme, sa santé, ses enfants ou son emploi. Cela les ramollit et les oblige finalement à sortir de leur refus de voir la réalité en face. Ils comprendront alors qu'il leur faut chercher de l'aide. Lisons à ce propos Ésaïe 30, verset 20. Ésaïe chapitre 30, verset 20. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. » Il nous faudra leur apprendre à sortir de leurs problèmes. Nous devrons leur montrer comment vivre leur vie selon la voie chrétienne, tout en leur témoignant compassion et compréhension. Préparons-nous donc à exercer ce genre d'encadrement. La première chose qu'il nous faudra leur enseigner, c'est comment accepter leurs responsabilités. C'est là un des avantages d'élever des enfants sur une ferme. Ils y apprennent à accepter des responsabilités. J'ai observé certaines de ces émeutes qui se sont produites après l'élection du président Trump. Je n'en revenais pas de voir les actions auxquelles osaient se livrer ces jeunes délinquants. Oh, je sais que certains d'entre eux avaient été appelés en renfort, car ils n'étaient même pas des résidents. Ces jeunes faisaient une crise de colère. Ils avaient perdu la boule, car ils ne pouvaient supporter que les choses ne se déroulent pas selon leurs attentes. Quelqu'un vivant au Royaume-Uni m'a dit qu'il avait remarqué un écriteau à l'entrée d'un restaurant où l'on pouvait lire « Américain bienvenu » en autant qu'accompagné d'un adulte. Drôle, n'est-ce pas? Cependant, ces émeutiers agissaient comme des enfants qui n'ont jamais appris à accepter leurs responsabilités. Voilà qui doit constituer notre point de départ. On ne s'y reportera pas, mais dans Deutéronome 30, verset 19, Dieu dit qu'il a mis devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et comme le ferait tout parent normal, il nous demande de choisir la vie. Dans Deutéronome 32, verset 29, Dieu ajoute « S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient, et ils penseraient à ce qui leur arrivera. » Autrement dit, acceptez vos responsabilités même dans des situations où l'on ne vous empêcherait pas de procéder autrement. C'est une situation à laquelle sera confronté un conseiller conjugal lorsqu'il aura à conseiller un couple où l'un est âgé de 50 ou 60 ans. Par contre, quand une jeune personne de 19 ou 20 ans me demande « Monsieur Stafford, quel conseil me donneriez-vous à propos d'éventuelles fréquentations, voire de mariage ?» À cela, je répondrai « À cet âge, il est difficile de discerner quel sera le comportement ultérieur d'une personne, si elle sera fidèle et restera attachée à son engagement initial. » Par contre, dans le cas d'une personne plus âgée, cela sera plus facile, vu qu'elle aura déjà fait ses preuves dans la vie, ayant des acquis qui permettent de porter un jugement sur elle et de savoir à quoi on peut s'attendre. Une personne qui veut sortir de ses problèmes se doit tout d'abord de reconnaître ses responsabilités. J'ai entendu des individus qui disaient « Je suis comme je suis à cause de ma mère » ou « Ma personnalité est la conséquence de mon manque d'éducation. » Qu'est-ce que je n'ai pas dû entendre? On cherche à se donner des excuses. On ne sortira pas de ses problèmes tant qu'on n'aura pas assumé sa part de responsabilité personnelle dans la situation qu'on vit. Tant qu'on ne dira pas « Ce n'est pas la faute de ma femme, ou de mon fils, ou de mon père, ou peu importe, c'est moi qui suis à blâmer. » Acceptons donc de reconnaître nos torts. C'est là un choix que Dieu met sur le dos de chaque être humain. Deuxième point à considérer. Revenons aux choses de base. C'est pourquoi l'Église ne cesse de nous recommander de prouver toutes choses. Vous pourrez le lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. Je me souviens qu'en arrivant au Ambassador College, je ne savais même pas si Dieu existait, et encore moins qu'il nous demande de vivre selon une voie particulière. Je me suis alors appliqué à étudier comme un forcené, au point que le ministère finit par se sentir obligé de me dire « Étudier ainsi est louable, mais il faut aussi consacrer du temps à ceux qui nous entourent. » Sur ce, après le dîner, je me mis à consacrer 15 minutes de mon temps à mes semblables. Malgré ces petites interruptions que je m'étais alors imposées, je n'ai jamais pu, en 53 ans, trouver une quelconque faille dans le récit biblique. Il est important que nous parvenions tous à cette constatation que la Bible est infaillible. Il est important également que nous fassions de ce manuel de vie notre pierre angulaire. En agissant ainsi, nous ne serons jamais tentés de faire marche arrière et de revenir aux voies de ce monde. Troisième point à considérer. On en fait usage dans les thérapies lorsqu'on recommande aux gens de se confier en une puissance supérieure. Nous savons que Christ nous a révélé Dieu comme étant notre Père, un Père qui a conçu un plan formidable pour toute l'humanité. Tout chrétien devra en arriver à la conclusion que notre Père céleste est mieux placé que quiconque pour savoir ce qui nous convient le mieux. C'est pourquoi je suis toutes ces recommandations à la lettre et sans aucune réticence. Veuillez à présent vous tourner vers Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Autrement dit, cessez de faire le mal. Verset 9. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Il nous faut donc en arriver à connaître Dieu, à savoir qu'il existe, qui il est et notamment qu'il est pour nous un Père qui nous aime. Contrairement à Satan qui séduit le monde entier, Dieu a vraiment notre bien-être à cœur. Et il a conçu un plan merveilleux pour toute l'humanité. Point numéro 4. Vous allez en arriver à un point où vous vous soumettrez à d'autres êtres humains. Voyez pour cela Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5 verset 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Pour ma part, je suis de plus en plus persuadé que la plupart des gens font de leur mieux avec ce qui leur a été donné. Ce que Dieu veut voir en nous, c'est que nous ayons l'attitude qu'il attend de ses prémices, que nous soyons intéressés au bien-être d'autres êtres humains, que nous reflétions une attitude philadelphienne. Cherchons-nous sincèrement à aider et à servir, à consacrer notre temps et notre vie au service des autres? Aidons-les à adopter la voie que Dieu nous a enseignée, afin qu'ils connaissent en définitive la même paix d'esprit, le même espoir, la même joie et le même pardon que nous. Mettons-y du zèle et faisons-le de bon cœur. à ceux qui me font part de leur conviction qu'ils ont surmonté leur problème de dépendance, je réponds « Ne dites pas cela, car aucun de ceux qui ont été asservis à un problème de ce type sont à l'abri d'une rechute. Il suffit qu'ils soient confrontés à nouveau à certaines situations pour qu'une rechute s'ensuive. Croyez-moi, j'ai pu observer cela à maintes reprises, particulièrement chez ceux qui étaient si sûrs d'eux-mêmes. » 1 Corinthiens 10, verset 12. Ne dit-il pas en effet, « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Soyons sobres et humbles, sinon nous agirions contrairement à l'Esprit de Christ, lequel s'est abaissé de son plein gré pour prendre une forme de serviteur, et il l'a fait par amour pour nous. » Point numéro 5. Nous devons nous rendre à l'évidence que nous sommes l'Église de ceux qui ont été graciés. Parfois, les gens se laisseront tellement envahir par des sentiments de culpabilité qu'ils ne comprendront plus le concept de grâce. Pour ma part, c'est plutôt soudainement que ce concept est parvenu à ma compréhension. J'avais pris l'habitude de rouler trop vite, et c'est pourquoi je m'étais attiré des contraventions à répétition. C'était à l'époque où l'on n'avait pas encore imposé une vitesse limite de 90 km/h. Chaque fois que je devais me présenter devant la cour, je parvenais à défendre ma cause et m'en tirais sans trop de dommages. Un jour cependant, je fus pris en flagrant délit d'avoir conduit trop vite aux abords d'une école. Dans mon esprit, j'étais persuadé que j'allais cette fois écoper d'une sérieuse amende, d'autant plus que j'avais déjà accumulé plusieurs infractions de ce genre dans le passé. Le juge, se penchant vers l'huissier, demanda alors « A-t-il déjà été accusé de méfaits similaires auparavant ?» Je me mis à frémir, accusé par ma conscience. Je me savais coupable. Mais à ma grande surprise, l'huissier se contenta de répondre « Pas de précédent à signaler, monsieur le juge. C'est à cet instant précis que je saisis le concept de grâce. » La grâce n'est point une chose que nous nous sommes méritée. Quand on nous l'accorde, c'est un don. Hélas, dans l'Église, il y en a qui continuent à traîner le fardeau de leurs fautes antérieures. Ils sont écrasés par la honte. Voyons à ce propos 1 Jean chapitre 3 et le verset 20. 1 Jean chapitre 3, verset 20. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Verset 21. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Vous allez finir par comprendre que lorsque vous vous repentez et que vous lui demandez pardon, Dieu vous fait grâce de vos péchés. En ce qui concerne le péché impardonnable, c'est un péché dont on ne se repent pas parce qu'on a blasphémé l'Esprit de Dieu qui nous mène à la repentance. Quelqu'un qui se repent va commencer par reconnaître qu'il a un problème. Tant que vous nierez la réalité, vous ne vous repentirez pas. Dans ce cas, vous continuerez à porter le fardeau de votre honte et de votre culpabilité. Ainsi donc, nous en arriverons à comprendre que nous sommes l'Église des pardonnés. Nous sommes les enfants de Dieu et Jésus-Christ a offert sa vie pour nous racheter. Point numéro 6. Il nous faudra tous apprendre à établir des priorités dans nos vies. En analysant la liste de nos priorités, nous en viendrons à avoir une bonne idée de l'état de notre vie spirituelle. Matthieu 6, verset 33 dit que si nous accordons à Dieu la première place dans notre vie, il s'occupera du reste. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pas besoin donc de se laisser terrasser par nos soucis. Fiez-vous à Dieu, il tiendra ses promesses, si nous lui accordons la première place dans notre vie. Veuillez à présent vous tourner vers Luc chapitre 21. On nous confiera des gens qui auront passé par des expériences traumatisantes, des gens qui devront leur survie à la grâce de Dieu. Ces gens auront été amenés à développer une mentalité de survivant. Cependant, ils vont maintenant devoir apprendre à s'en remettre à Dieu et à nous, ses assistants, pour prendre soin d'eux et pour combler leurs besoins. Luc 21, verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. À noter que ceci ne se produira pas tant qu'ils nieront la réalité. Ils devront finir par s'éveiller et par faire preuve de sobriété. Il faudra qu'ils apprennent à établir des priorités. Finalement, point numéro 7, soyons disposés à rechercher de l'aide. Dans Éphésiens 4, verset 11, Paul rapporte sous l'inspiration divine que Christ a lui-même établi un ministère pour le perfectionnement des saints, le but étant que nous croissions spirituellement, que nous développions l'Esprit de Christ et que nous tendions vers l'unité de la foi. Ce faisant, nous ne serons plus des enfants ballottés par tout vent de doctrine. Nous ne serons plus victimes de distractions. Nous aurons une vision saine. Nous cesserons de critiquer tout le monde, sauf peut-être nous-mêmes. Nous cesserons alors de succomber à des dépressions débilitantes, toutes sortes de raisons pour lesquelles Christ a établi un ministère. Il ne nous laisse pas seuls avec nos problèmes. Voyons par exemple Hébreux 13, verset 17. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Christ a établi l'Église pour nous aider. Il inspire ses ministres afin qu'ils nous enseignent sa voie, comment mener notre vie. Lorsque nous ne parvenons plus à nous en sortir, il nous faut nous rendre à l'évidence qu'il est temps de demander de l'aide. N'agissons pas en solitaire. Dieu nous a appelés afin que nous fassions partie d'un groupe, dont les membres doivent s'aider, se soutenir et s'encourager mutuellement. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit de Dieu, ce n'est pas pour le stocker. Il doit couler à travers nous et retourner à Dieu après avoir accompli sa volonté. Il doit nous permettre d'aider, de servir et de montrer de la sollicitude envers notre prochain. Plus nous le ferons, et plus nous cesserons de nous apitoyer sur notre sort. Au lieu de cela, nous voudrons nous investir davantage dans l'œuvre et faire en sorte que plus d'êtres humains apprennent à connaître la voie de Dieu comme nous l'avons apprise et commencé à mettre en pratique. Si nous agissons ainsi, Dieu nous accordera toujours plus de son Saint-Esprit, un esprit qui agit comme une dynamo, produisant de plus en plus d'énergie. Rendons-nous à présent à 2 Timothée chapitre 2 verset 24, où nous trouvons un passage qui semble plutôt s'adresser au ministère, bien qu'il puisse tout autant s'adresser à chacun de nous. Voyons donc 2 Timothée chapitre 2 verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Tout d'abord, notez qu'un serviteur du Seigneur, cela peut s'appliquer à chacun d'entre nous, car tous, nous subissons un entraînement pour devenir des rois et des sacrificateurs. Nous serons tous des enseignants. Nous servirons d'assistants bergers sous le roi David ressuscité. On nous entraîne actuellement pour devenir des premiers-nés, des prémices qui assisteront Jésus-Christ. Il est question de nous dans Apocalypse 14, qui mentionne les 144 000 qui seront avec Christ à son retour. Nous devrons alors aider ceux qui seront abattus et qui nécessiteront qu'on les relève. Ils seront meurtris et faibles, et ils auront besoin qu'on leur enseigne à prendre de bonnes décisions et à choisir une façon de vivre qui donne de bons résultats. Étant le corps de Christ, il est de notre responsabilité de faire de notre mieux pour nous préparer à devenir de bons bergers, de développer un cœur porté à soutenir nos frères et sœurs. J'aimerais à présent qu'on se penche sur un passage des Écritures qui ne m'avait jamais frappé jusqu'à ce que ma femme le porte à mon attention. Il se trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 1. Nous avons tous passé par différentes épreuves et connu des difficultés, certains ayant même développé diverses dépendances. Voyons 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Plus vous aurez connu d'épreuves, de tribulations et de problèmes de santé, plus vous aurez été secourus et réconfortés par Dieu, et plus vous aurez appris à mettre votre confiance en lui et compris que sa voie est vraiment la meilleure. Cela vous donnera une paix d'esprit qui surpasse toute intelligence. Finis ces craintes et ces anxiétés. Vous ne vous sentirez plus abandonné à vous-même. Notez aussi que toutes ces consolations nous seront données afin qu'à notre tour, nous puissions alors réconforter ceux qui passeront par des situations semblables. Encore une fois, tout cet entraînement que nous subissons actuellement a pour but de développer en nous une solide confiance en notre Dieu et en sa capacité de nous fortifier et de nous délivrer de toutes nos épreuves. Nous serons alors à même d'aider un jour tous ces petits frères et toutes ces petites sœurs qui nous seront confiés quand Christ règnera sur terre. Nous pourrons alors les convaincre que nous avons vraiment leur bien-être à cœur. Nous devrons nous efforcer de les aider à se dégager de toutes ces choses qui les maintenaient dans un état de dépendance et leur montrer comment mieux gérer leur vie. Il nous incombera de relever les affligés, de secourir les aveugles et les boiteux, et d'encourager ceux qui auront perdu leurs enfants. Tout cela nous sera possible car nous aurons nous-mêmes été aidés et assistés par Christ dans les épreuves à travers lesquelles nous passons à l'heure actuelle. Fort de ce soutien et de ce réconfort qu'il nous aura donné, et grâce à l'assistance de l'Esprit de Christ qui aura été formé en nous, et de la puissance du Saint-Esprit, nous pourrons à notre tour aider ceux qui nous seront confiés. J'aimerais terminer à présent en répondant à une question que beaucoup se posent. Qu'est-il arrivé à Bill dont j'ai parlé au début? Bien sûr, Bill n'est pas son vrai nom. Vous savez, je l'ai vraiment aimé et je lui ai consacré beaucoup de mon temps. Eh bien, Bill est finalement retourné en Alaska. Il est retourné à son ancienne façon de vivre et il est mort dans un tragique accident. Frères et sœurs, il n'aurait pas dû en être ainsi, mais il est un fait que ces choses arrivent. J'ai vu des gens qui sont finalement retournés à ces mauvaises habitudes qu'ils avaient pourtant appris à haïr à un moment donné. Ces 7 points que nous avons abordés aujourd'hui peuvent nous aider individuellement, mais ils peuvent aussi nous aider à venir au secours de notre prochain, en le faisant bénéficier de la consolation que nous avons nous-mêmes reçue de la part de Dieu.